ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission d'octobre que j'ai choisi de consacrer à la poésie belge. Alors pourquoi belge plutôt que croate ou moldave, me direz-vous ? Eh bien pour deux raisons. La première est que depuis quelques années, j'ai découvert à travers des compilations, notamment celles qui paraissent au moment du Printemps des Poètes, un certain nombre de textes écrits par des poètes belges qui ont retenu mon attention. La deuxième raison qui fait suite à cette envie est que l'été dernier, j'ai eu l'occasion de pousser la porte de la librairie Le Bleuet, située à Bannon, dans les Alpes de Haute-Provence. Au passage, c'est un lieu que je recommande chaudement à ceux qui ne le connaissent pas déjà, car en déambulant dans ces nombreuses salles, vous y trouverez un choix impressionnant d'ouvrages, notamment dans le domaine de la poésie, qui est souvent, il faut le dire, le parent pauvre dans une majorité de librairies. Ainsi, j'ai déniché au Bleuet un recueil paru cette année intitulé « Une poésie de 20 ans, anthologie de la poésie en Belgique francophone des 20 dernières années ». Je vous convie donc au cours de cette heure à découvrir un certain nombre de textes d'auteurs différents, ayant chacun naturellement une écriture singulière, mais dont le point commun est d'appartenir à un même pays, la Belgique, et d'être de langue française. Alors nous savons tous que les liens qui nous unissent aux autres pays francophones ont été par le passé et restent encore aujourd'hui entachés par une tendance générale de la part des Français à regarder les autres francophones avec une certaine condescendance, voire un esprit railleur moquant leurs accents ou leurs expressions idiomatiques. En réponse à cet état d'esprit franchouillard, dont il n'y a pas lieu d'être fier, voici un texte belge qui ne manque pas de sel et renvoie finalement Belges et Français dos à dos en fustigeant leur commune xénophobie. Il a été écrit par une jeune autrice de 38 ans qui s'appelle Julie Remacle. Il sera suivi par un second texte, emprunt lui aussi de cette forme d'humour qui n'appartient qu'aux Belges. Nous, on est des Wallons. On sait tout ce que les Français font, on regarde TF1 et on connaît toutes leurs histoires. Mais les Français, eux, ils s'en foutent de nous. Ils ne connaissent rien à la Belgique, même pas Liège. Et ils ne savent même pas qu'on dit 70 et 90. C'est pour ça qu'on ne les aime pas. Aussi parce qu'ils ont un pays très beau, plus beau que la Belgique, où il s'est passé beaucoup plus de choses, comme l'histoire de Louis XIV, le roi Soleil, et surtout, les Français parlent français. Ils ont leur langue à eux, du nom de leur pays, alors que nous, les Belges, on ne parle pas belge. On parle la langue du pays d'à côté. Le flamand, si on habite à côté de la Hollande, l'allemand, si on habite à côté de l'Allemagne, et le français, si on habite à côté de la France. Nous, on ne peut pas trop faire les malins avec notre pays ou avec notre langue. Alors que les Français, ils croient qu'ils habitent le plus beau pays du monde. Mais ils ne connaissent rien aux autres pays. Et ils croient qu'ils parlent la plus belle langue du monde. Mais ils ne savent parler aucune autre langue. Même en anglais, ils sont nuls. Et même le français, on le parle mieux qu'eux. Parce que nous, au moins, on ne dit pas « là » au lieu de dire « ici », « derrière » au lieu de dire « après ». Et on fait la différence entre les « et » les « est ». Par rapport aux flamands, tout le monde dit qu'on est plus sympa parce qu'on va plus souvent au café et qu'on aime moins travailler. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai juste été une fois au zoo d'Anvers, mais je ne me rappelle pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est les plus pauvres, parce que les flamands nous détestent, parce que c'est eux qui doivent travailler pour payer le chômage des Wallons. Alors que les flamands, eux non plus, ils n'aiment pas travailler. Ils font mieux semblant, c'est tout. Ils font plus américains, alors que nous, on fait plus ceux qui s'en foutent. Le problème avec les étrangers, c'est qu'ils viennent chez nous. Ils croient qu'ils vont être heureux et qu'on va bien les accueillir. Mais non, nous, on pense qu'ils vont voler notre travail, déjà qu'il n'y en a pas assez. On pense aussi qu'ils vont voler notre chômage. Du chômage non plus, il n'y en a pas assez. On est tellement bêtes et malheureux qu'on ne comprend pas une petite chose. Personne ne veut habiter ailleurs que chez lui. Et s'il faut vraiment partir, on choisit une île déserte avec des palmiers où il fait beau. Pas la Belgique. Un second texte maintenant, dans la même veine. Il a été écrit par Christophe Van Rossum, un monsieur qui a 53 ans, et c'est tiré d'un recueil qui s'appelle « Sous un ciel dévoyé ». Le ciel. Le ciel belge avait bien commencé. Il était bleu comme beaucoup d'autres, avec ça et là, certes, quelques nuages de beaux gabarits, et même certains assez sombres et gonflés de pluie. Mais bast, il n'était pour autant pas si mal. Puis vint une sous-commission qui, pour d'obscures raisons, souhaita le repeindre en gris. Elle octroya les crédits nécessaires à cette fin, mais en raison de grèves, de dysfonctionnements et d'un manque de compréhension entre les vents du nord et du sud, les travaux ne purent être achevés dans les temps. Ils ne reprirent jamais d'ailleurs. C'est pourquoi l'on peut voir quelquefois une trouée de bleu dans le ciel belge, souverain et vide. Vous venez d'entendre un extrait d'une composition du pianiste de jazz Thelonious Monk, intitulée Well You Needn't, mais qui est jouée ici par une formation classique qui s'appelle le Kronos Quartet. C'est un quatuor à cordes spécialisé dans la musique d'aujourd'hui qui s'est frotté depuis sa naissance au début des années 70 à de nombreux univers différents, dont celui de Monk. Nous entendrons d'autres pièces de Monk interprétées par le Kronos Quartet au cours de cette émission et il y aura aussi des morceaux joués par Monk et ses musiciens. Dans la préface de l'anthologie dont il est l'auteur, Gérard Purnell, professeur à l'Université de Liège et spécialiste de la poésie belge francophone, nous rappelle que la Belgique est une nation qui, à la veille de fêter son bicentenaire en 2030, je le cite, « ne cesse de démontrer son artificielle unité ». Et pour les écrivains belges, cela revient à, dit-il, « assumer sa belgitude, ou du moins se positionner à cet égard dans un pays divisé en communautés linguistiques et en régions. » Gérard Purnell précise aussi que cette anthologie rassemble des auteurs de générations différentes, depuis le doyen né en 1921 et qui serait aujourd'hui centenaire, jusqu'au Benjamin qui n'a que 25 ans. De ce fait, l'objectif de l'anthologie est de présenter tout autant un héritage poétique incarné par des poètes de la fin du XXe siècle que la dynamique actuelle de jeunes poètes inscrits dans le XXIe siècle et ce qu'il est convenu d'appeler la postmodernité. Les poèmes de l'anthologie sont présentés selon un ordre chronologique qui répertorie leurs auteurs selon leur date de naissance. On remonte ainsi le temps des plus jeunes aux plus anciens. Alors, plutôt que de respecter cette chronologie, j'ai préféré regrouper les poèmes en fonction de leur tonalité, ce qui a pour effet que des poètes relativement âgés, voire disparus aujourd'hui, vont côtoyer de jeunes auteurs, par le fait qu'une certaine similitude m'est apparue en lisant leurs textes, une sorte d'inspiration commune, pouvant d'ailleurs s'exprimer dans des styles tout à fait dissemblables. Je n'ai pas de renseignements particuliers sur les auteurs, je vous donnerai seulement pour chacun leur nom, leur âge et le titre de l'ouvrage ainsi que son année de parution. Commençons par une première série de textes, en prise avec le monde réel, la vie comme elle va, dans ce qu'elle a de tendre ou de pitoyable. On pourrait appeler cela la quincaille des jours, comme le titre donné au recueil de l'un des auteurs que vous allez entendre. Sur la grève balayée par les vents et les pluies de saison, par la neige qui revient les mordre, deux silhouettes, deux corps projetés avec le même mouvement vif de survie vers l'avant, visage enfoui dans le cœur des poubelles, prenant et exhalant la pestilente odeur de ce qu'il arrache avec les dents, sardines au vinaigre et au vin, choux rouges talés de nos bocaux, sans parler de la viande, bête crevée de nos usines. Des feux dans des tonneaux, à la surface desquels sont cuits et dorés sur la tranche les marrons glanés dans les rues et réchauffés les mains, les doigts, tout le corps fracassé de nuit. Des feux sous le pont, dans des tonneaux à vin, des feux qui les protègent d'un mourir soudain dans le froid, d'un finir brusque dans la jeunesse. Ces deux textes ont été écrits par Antoine Vauters, 41 ans. Le recueil s'appelle « Césarine de nuit » et il est paru en 2012. Alors, le nom d'Antoine Vauters vous dit peut-être quelque chose, car c'est l'auteur auquel a été décerné cette année par un jury de lecteurs le prix du Livre Inter pour son livre « Mahmoud ou la montée des eaux », qui est un récit poétique sur la mémoire d'un vieil homme en Syrie. Et je vous le recommande, car c'est un ouvrage qui fascine tant par la sensibilité de son sujet que par la qualité de son écriture. Solitude Europe. La solitude n'a pas en Europe que les amis qu'elle veut bien se faire. À Francfort, dans la Bergerstrasse, du lard grésille dans une arrière-cuisine. Un homme lit le journal dans une langue qu'il ne comprend pas. À Newcastle, tôt le matin, non loin de la tour des poètes, une femme, attendant le bus, adresse une prière au Très-Haut ou au Très-Divin, ainsi qu'elle l'appelle à part soi. À Turin, un homme sort du restaurant, des dizaines de roses sous le bras, et croise, dans la brume, les fantômes de Nietzsche et de Pavese qui marchent ensemble sous les arcades. Dans la plaine d'Arras, un homme gare sa voiture sur le parking du champ de bataille. Il neige. Quand il ferme les yeux, il voit des chevaux et des soldats avancèrent au pas. Plus au nord, sur l'autoroute qui mène à Amsterdam, un homme descend de l'arrière d'un camion, comprend qu'il n'est pas dans la bonne direction et lève au ciel un pouce rongé par l'acide. De bas en haut souffle un vent mauvais, d'est en ouest, le même vent. Chacun rabat sa capuche, chacun se hâte au cœur de la forteresse. La solitude n'a pas en Europe que les amis qu'elle veut bien se faire. D'autres mains touchent le bas de son manteau et demandent l'aumône d'une aumône. Dehors, l'habit et la parure. Dedans, le nid et le sang. Dehors, la course et le bruit. Dedans, une musique de chambre. Dehors, la mer et le ciel. Dedans, l'orage ou le baiser. Dehors, les masques portés. Dedans, la nudité vue. Dehors, la guerre et les ruines. Dedans, les corps éperdus. Dehors, la parade et l'allure. Dedans, une petite mort. Dehors, il pleut et il vente. Dedans, le livre dit le monde. Voilà, c'était un texte de Marie-Clotilde Ross, qui a 52 ans. Et c'est tiré d'un recueil qui s'appelle « Le poème quotidien » paru en 2014. Le précédent, je ne vous ai pas indiqué l'auteur. C'était Sébastien Février, 46 ans. Et c'était tiré d'un recueil qui s'appelle Solitude Europe, paru en 2018. Je me suis levée, réveillée par le soleil. La sieste est terminée. L'odeur du savon à l'olive embaume la terrasse. Je dirais bien que le jour te va comme un gant lorsque tu te réveilles, après une longue nuit, à rêver. J'ai suivi la ligne ondulante des fourmis qui m'a conduit jusqu'à la grosse sauterelle agonisante. Renoncer, il est temps de savoir. Il est temps d'ignorer aussi que le fleuve coule toujours dans le même sens. Le vélo est rouge, le revêtement de la route est gris, et quand tu perds l'équilibre, tu vois le soleil faire un bond en même temps que toi. La poule pond un monde chaque matin. L'hiver claque des dents dans ma bouche. Le temps passe vite sur son vélo, avec une meute de chiens à ses basques. Elle a pissé sur la rampe d'accès en poussant le plus beau soupir d'aise que j'ai jamais entendu. Tu as au coin des yeux une petite empreinte de moineau. Celui-ci, c'était un texte de Francesco Pitao, 66 ans, et cet extrait de « La quincaille des jours », paru en 2018. Alors, nous continuons avec un texte de Werner Lambersi. Werner Lambersi est né en 1942 et mort en 2021. Ils entrent et sortent du métro. Sans fin, ils rentrent et sortent. Et les fourmis, pareillement, en file. Et les étoiles, la voie lactée avec ses comètes. Tout ça que tu renonces à compter pendant que tu marches dans la foule qui te porte comme une plume sur l'eau. C'était le chemin de l'école. C'est toujours le chemin de l'école. Mais les platanes aux chapelles fraîches en été ont disparu. C'était le chemin de l'école. C'est toujours le chemin de l'école, mais qui a détruit son arcade, la belle enfilade des arbres qui, au bout de l'allée droite de la Drève, laissait deviner l'entrée d'un château. un texte de William Cliff. William Cliff a 82 ans. Et le texte que vous allez entendre est extrait d'un recueil qui s'appelle « Matière fermée », paru en 2018. À Beyrouth, deux garçons languides s'avançaient dans la rue, se tenant enlacés tendrement. Parce qu'en Orient, ce n'est pas un forfait de se tenir enlacés comme des amants. Moi qui les regardais aussi avec tendresse, ils me regardèrent, mais avec gravité. Parce que dans cet âge, il faut que l'on progresse vers un avenir plus long que l'éternité. Leur peau était livide, leur corps était mince. Ils avançaient dans la rue, mais pour chercher quoi ? Simplement d'être ensemble dans cette province et se montrer à ce monde tel qu'il est là. Enlacés, je les vis ainsi, ils disparurent. Moi, je continuai mon chemin dans la rue. Le morceau que vous venez d'entendre s'appelle « Epistrophe » et était interprété par le quartet de Thelonious Monk qui avait pour invité le saxophoniste John Coltrane pour cette session live au Carnegie Hall à New York. Le précédent morceau était aussi une composition de Monk jouée par le Kronos Quartet et intitulée « Brilliant Corners ». Abordons maintenant un second ensemble de textes écrits par des poètes qui prêtent leur voix aux autres, parlent en leur nom pour dénoncer des injustices ou des violences et dont la parole mêle ainsi mémoire intime et mémoire collective. Commençons par Lisette Lombé, qui a 44 ans, et c'est un extrait de « Black Words » paru en 2018. Asthma. Asthma. Rappeuse braise au rythme panthère, armée d'un feu qui ne guerroie, qu'aucune noirceur ne désespère et que n'épuisent nos désarrois. C'était un 14 mars. Je lui ai dit « J'ai honte de toi. À compter de ce jour, tu n'es plus ma fille. Tu n'existes plus pour moi. » Je lui ai dit ça comme on tranche dans la gangrène, avec l'œil dur et le geste inhésitant de ceux qui sont intimement persuadés qu'une vie amputée de sa sève vaut toujours mieux que n'importe quel néant. J'ai attendu les cris, j'ai attendu le coup de poing sur la table, mais elle n'a rien dit, strictement rien dit. C'était un 14 mars. Le lendemain, ma fille a pris un avion pour la Turquie en compagnie d'un garçon prénommé Anouar. Le corps de ce garçon vient d'être retrouvé à 5 km au nord de Raqqa, en Syrie. Pas celui de ma fille. Aucune trace de ma fille, aucune trace du corps de ma fille. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il advient d'une adolescente idéaliste, entourée de montagnes, de bourgades en ruines et d'hommes aiguisés au combat ? Asma. Il aura donc fallu cet insensé périple pour que j'entende enfin sa voix. J'ai lu tous ses textes, à rebours ses poèmes, à rebours ses chansons, à rebours ses brouillons. J'ai lu tous ses textes. J'ai lu que j'étais un mouton camisolé tournoyant dans ses 4 mètres carrés de cuisine jusqu'à l'anesthésie de sa sous-citoyenneté. J'ai lu que le déshonneur, ce n'était pas de monter sur scène. Que le déshonneur, c'était d'élever ses enfants dans la peur de la lumière. Que le déshonneur, c'était de briser des jeunes ayant fait le choix du grand renversement de la quotidienneté. J'ai lu que le déshonneur, c'était moi, maman d'Asma, rappeuse braise aux rimes panthères, armée d'un feu qui ne guerroie, qu'aucune noirceur ne désespère et que n'épuise nos désarrois. Je voudrais que ma fille revienne. Même radicalisée jusqu'à la moelle, même fichée, même déchue de tous ses droits. Je voudrais que ma fille me revienne, même transhumante, réfugiée parmi les réfugiés, parquée comme un animal à la semelle de l'Europe, trempotant dans le sang des premières règles, des premières fois, des fausses couches et des vrais coups, qu'elle me revienne, même abîmée, même suintante, qu'elle me revienne, même nue, même rampante, lacérée tout contre moi, même dans un sac. Même dans une boîte, qu'elle sache qu'elle avait raison pour l'inépuisable beauté du monde, pour l'humanité qui ne renonce en personne, pour l'amour, pour la révolte, pour la magie et pour l'exil, la serrer tout contre moi, même dans un sac, même dans une boîte, et lui demander, lui murmurer, lui chuchoter, pardon. Prenez le futur cadavre d'un homme, précipitez-le sur le champ du boucher, abattez-le d'une rafale dans le cou. Prenez garde, son corps décapité pourrait encore parcourir quelques mètres avant de plier genoux. Dépecez la carcasse ainsi obtenue d'un implacable coup d'obus qui lui déchirera les côtes. Rien de drôle, qui lui déchirera les membres, les 4 plus beaux morceaux de viande. Qui lui déchirera les entrailles, kilomètres de tripes en campagne, qui lui déchirera la peau, faites-moi rire, qui le videra de son sang, à votre santé. Battez-la pour qu'elle s'attendrisse, insultez-la pour qu'elle obéisse, punissez-la pour qu'elle s'aplatisse, humiliez-la pour qu'elle s'anoblisse, pilonnez-la pour que cervelles et chairs s'abrutissent. Souviens-toi, soldat, souviens-toi, tentative d'homme. Souviens-toi de ce soir-là, nous jouions aux cartes, nous jouions nos personnes pour nous donner de l'air, nous bombions le torse pour braver les éclats de nuit qui vidaient nos tripes, pour braver les éclats de cris qui vidaient nos verres. Souviens-toi, soldat, souviens-toi, frère d'homme, souviens-toi ce soir-là, nous buvions une dernière bière, nous trinquions à la mort qui attendait contre la porte, nous trinquions à la vie qui nous portait jusque-là, jusqu'au bord de nos lèvres, aux confins de la peur, où ne souffrent plus que nos haleines ivres et nos envies de vivre. Souviens-toi, soldat, souviens-toi, moitié d'homme, souviens-toi ce soir-là, nous caressions des femmes, nous caressions l'espoir de glisser nos mains sur la promesse de leur sein, sous leur ventre plat, de glisser nos rêves pour un seul baiser qui éteindrait toutes les lumières, qui mettrait fin à la guerre. Souviens-toi, soldat. Souviens-toi, futur d'homme, souviens-toi ce soir-là, nous étions tous frères, nous étions toutes sœurs, les enfants d'une femme, les enfants d'un homme. Souviens-toi de notre unique flamme, de nos belles personnes à choyer, à chérir. C'était un texte de Michael Lambert, 47 ans, qui est tiré de ma petite boucherie paru en 2014. Ma mère m'aérait tous les jours. Ma mère m'aérait tous les jours quand j'étais bébé, tous les jours, un jour, un tour en poussette dans le quartier, en poussette dans le jardin, petit tour autour du lac, tous les jours ma mère m'aérait, tous les jours. En été, on s'aère à la campagne, on s'aère à la montagne. En été, va jouer au jardin, il fait beau, va jouer dehors, va prendre l'air, elle me dit. À la campagne, je roule sur l'herbe en regardant le ciel. Ça tourne, ça tourne. Quand ça s'arrête, je fixe le ciel. Toutes les formes du monde défilent dans les nuages. Je cours avec mon filet pour attraper les papillons. Je souffle sur les pissenlits. Et quand je roule à vélo, l'air affole mes cheveux. L'air aspire mon visage. Quand je grandis, quand je cours, je suis essoufflée. Je n'arrive plus à prendre l'air. Je suis essoufflée. Quand je cours moins vite que mes amis. Je cours moins vite. Je grandis trop vite. Je suis essoufflée. Quand je cours vite, je grandis trop vite. Et j'ai le souffle court. Allez, va prendre l'air, dit ma mère. Va prendre l'air, va prendre l'air. Elle ouvre la fenêtre de ma chambre, tout grand. Le matin, l'hiver, il fait froid. Aère ta chambre, dit ma mère. Aère, aère. Et le père, l'air de rien, ne revient pas souvent à la maison. Le père prend l'air. La mère fait entrer le vent dans la maison. La mère aère, aère, aère. La mère aspire les poussières, range les affaires. La mère ordonne l'air dans la maison. La mère ordonne les fleurs au jardin. La mère prend soin de l'air à la maison. Le soir, revient le père. Plus un mot entre eux ne traverse l'air. Leur colère agite l'air de la maison. Et la fille prend l'air de l'air dans ses rêves. La fille dort de plus en plus longtemps. Ne regarde plus les nuages, ne regarde plus les poussières qui scintillent dans le noir. Ne souffle plus les pissenlits dans l'air. La fille rêve. Va prendre l'air, va prendre l'air, va prendre l'air, dit la mère. La fille ferme sa porte, bouche l'air avec ses musiques, bouche l'air. Mère crie, mets ta musique moins fort, va prendre l'air, range ta chambre, sortez des maisons. Les portes claquent, 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 ça claque à la maison, ça claque à la maison. Les portes claquent, 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 ça claque à la maison. Les portes claquent, 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 ça claque à la maison. Je m'en vais dehors, je prends l'air dans ma bouche, je le sors en paroles et claque et claque. Je remplis mes poumons d'air, ma bouche remplit l'air des mots des poètes et claque et claque. J'ai l'air heureuse avec les poètes. Un homme embrasse mes lèvres, souffle dans ma bouche, nos bouches se touchent, l'air de nos corps se love dans nos bouches qui se touchent, nos corps se touchent, il n'y a plus d'air entre nos corps se touchent, je respire fort, nos corps se touchent, je respire fort, fort, je respire fort, je respire fort, fort, je respire fort, fort, il n'y a plus d'air entre nos corps, je respire fort, 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 je cours à mon travail, je cours pour mettre la maison en ordre, je suis essoufflée, je veux prendre l'air, de l'air, de l'air, de l'air. J'aère la maison, j'ouvre grand les fenêtres. Clac, clac, j'ouvre les fenêtres. Dehors, il fait froid. Mon enfant pleure. J'ouvre grand la maison, j'aspire les fenêtres. Je fais le tour de l'enfant avec mon lac. J'aère mes poussières, j'ouvre les canards, j'aère mes fenêtres. J'aspire mon enfant. Parfois, il n'y a plus de corps entre nos airs. Parfois, il n'y a plus de corps dans ma respiration. J'ai l'air de quoi ? L'air, à l'air, à l'air, à l'air de quoi ? J'ai l'air de quoi ? À l'air. C'était un texte de Laurence Vielle, 44 ans, extrait d'un ouvrage qui a pour titre « Ouf », paru en 2015. La fille qui servait la soupe. Dans ma cellule, j'attendais. J'attendais une lettre, mais qui m'aurait écrit ? Personne ne savait que j'étais là. J'attendais les interrogatoires, j'attendais la sentence du juge, j'attendais ma libération, j'attendais les carillons des églises qui sonnaient tous les quarts d'heure, j'attendais midi, j'attendais la nuit, j'attendais l'aube, j'attendais. Mes deux compagnes de cellule n'attendaient rien. Elles savaient qu'elles étaient là pour longtemps. Elles dormaient, elles écoutaient de la musique. Parfois, elles hurlaient leur révolte et leur désespoir avec Nina Hagen, et je hurlais avec elles. Elles regardaient le WC coincé entre nos trois lits. Elles ne faisaient rien. J'attendais les repas. Une gardienne ouvrait la cellule et une toute jeune fille en tablier de nylon poussait un chariot avec des assiettes, des couverts et des casseroles fumantes. Elle était petite et menue, avec un visage fin, des cheveux châtains mi-longs, des yeux qui ne regardaient rien, elle avait l'air douce. Fragile, du genre qu'on a envie de protéger, et elle nous servait la soupe. Qui était cette fille ? Mes compagnes m'ont dit en anglais qu'elle avait à peine 16 ans et qu'il y a 2 ans, elle avait tué son père et sa mère à coups de couteau pendant qu'ils dormaient. J'ai regardé mon bol de soupe en me demandant si je devais le boire. C'est un texte de Dominique Laureau, 67 ans, et le recueil s'appelle « Loin de Bissau ». Il est paru en 2010. Vous avez entendu avant le dernier texte une pièce qui réunissait cette fois Thelonious Monk et un autre grand saxophoniste de jazz qui s'appelle Jerry Mulligan. Poursuivons notre parcours avec une troisième série de textes, centrés davantage cette fois sur l'individu et qui questionne la condition humaine, le rapport personnel à la vie et à la mort. Est-ce que nous percevons seulement ces petits bleus semés qui nous escortent jusqu'à l'essentiel? Lorsque le vent vient pianoter sur la rouille de nos ancrages, une intense lumière nous invite à entrer. As-tu remarqué ces continents inconnus émergeant du dedans, discrètement reliés à l'imprévu? Infiltrer le très simple avec en poche, la petite monnaie bourdonnante de l'univers. C'était Anne-Marielle Villeverte qui a 69 ans et le texte est issu de « Ce que le bleu ne sait pas du fragile » paru en 2019. Que sais-tu vraiment de l'arbre, si tu n'habites pas toi-même l'arbre? Que sais-tu des nuages, de la transparence ou du vert de l'herbe? Qu'en sais-tu, puisque tu ne t'en es jamais approché? Et que sais-tu au juste de toi-même, de toi qui vis couché dans les ruches et la cendre, toi l'absent et l'encore éloigné du cœur tremblant? Que sais-tu vraiment de tout cela qui nous entoure et déjà nous aime? Celui-ci, c'était un texte d'Yves Namur, qui est né en 1952. Et le recueil s'appelle « Les ennuagements du cœur », paru en 2004. Nous revenons toujours à une mise au monde. C'est un endroit qui ne rompt pas et dont la blessure, si elle se nomme, ne supporte aucun gémissement. Nous sommes nés tant de fois que nous retournons voir nos mères pour qu'elles nous racontent encore la tessiture du premier cri, son écho improbable avec les années. Nous cherchons la seconde où nous aurions douté ou refusé, le mutisme qui aurait signé l'acte de rébellion. Ensuite, nous sommes nés enfants éperdus, lecteurs avides, adolescents parnassiens, amants volatiles, voyous d'un soir, étudiants sans objet, professeurs d'inconstance, marchands de douceur, maçons vagabonds, pères élus ou solitaires fervents. Tous ces chemins pour revenir après chaque saut, chaque illumination, à une mise au monde. Passer sous le joug de la porte étroite, toiser le miroir, réinventer la chair sur ses os, et ne jamais se plaindre d'un vide dans le ciel, ayant foi aux nuages, aux étoiles sur le point de filer et au matin enflammé d'oiseaux. Il y avait toujours des enfants dans ce petit coin de vent triste, à l'ombre d'un talus très nu, surmonté d'un vieux mur oblique. Restait le butoir d'une ancienne voie ferrée où s'est égarée la locomotive imaginaire de l'enfance, et le vent pensif et lent tournait autour de son fantôme. Aujourd'hui, je suis revenue voir si c'est toujours la même souffrance, légère et tendre, de s'asseoir au pied du talus quand le soir descend. Je n'ai surpris qu'une petite fille. Elle danse toute seule. On ne l'attend nulle part. Personne ne sait comment elle s'appelle, ni quel dieu lui fit don de ses ailes. Un texte de Jean-Claude Pirotte, 1939-2014. Et cet extrait de La boîte à musique, paru en 2004. Pour le corps, ce lieu où se redresse le monde, chaque minute compte. Chaque grain de terre est une raison de vivre, recroquevillée au fond d'un soleil dansé. Ici, rien n'est figé ni définitif. Tout se transforme, tout se gagne, parle d'un même rouge vif et garde sous la dent la graine d'une vie à danser, ce qui dit plus que soi. Du rouge seul, on voit la vie sortir et faire la roue sans fin dans le ciel d'un ailleurs déserté par les mots. Cerf-volant, cérémonie d'un corps portant haut le réflexe de vivre à tout rompre, au centre d'une espérance faite de restes d'étoiles, d'éclairs et de possibles muets. C'était Pierre Schroven, qui a 65 ans, et cet extrait de « Haute voltige d'une présence sans nom » paru en 2017. Je ne suis pas celui que je suis. Ce ciel n'est pas le mien. Le lieu de ma naissance n'existe pas. Inventer ma vie, intermittent ce cœur. Les masques ne me quittent jamais. Poisson des grandes profondeurs, captif d'un aquarium glauque qui se cogne désespérément la tête aux vitres pour sortir de lui-même, je suis coincé, quelque part, entre vivre et mourir, entre ombre et lumière, entre chien et loup. Au cœur d'une fenêtre qui n'existe pas, frappe le poing d'un enfant qui n'ose plus sortir le soir, tant il redoute l'aboi des chiens et l'arrogance de la nuit. Je ne connais pas le visage du muet qui me regarde dans le miroir. Lui aussi semble ignorer qui je suis. Pour me faire face, il masque son plus beau sourire sous les habits de l'ombre et du silence. Nous avons même rides et même larmes, mais à l'hiver de l'âge qui me traverse, il oppose le printemps des rêves. Jean-Luc Vautier, 1950-2015. Le recueil s'appelle « Sur les aiguilles du temps ». Il est paru en 2014. Celui qui n'a jamais changé de cap, perdu le nord, haché le petit bois des branches de sa vie, ne peut comprendre ce que je vais dire. Moi-même, je n'y comprends rien. Il fut un temps où je me sentais maître de mon corps et seigneur de ma destinée. L'outil du corps s'est dégradé par son usage. Il est usé, rétif, rouillé, et le moteur central a dératé. Oui, maintenant, quoi que je fasse, mes jours s'en vont diminuant. De plus en plus, j'approche de ce lieu qui n'est pas ici-bas, mais autre part, ailleurs. Nul ne viendra préciser où. Je me détache des choses visibles, et d'autant plus facilement que l'on m'a tout ôté. Mais bien modeste et la vigueur que j'apportais en tout. Ce corps que je croyais le mien, qui représentait mon seul bien, mais qui bientôt disparaîtra, ce corps dont ne restera rien et qui pourtant m'appartenait, c'est du moins ce que je pensais, Tout cela, du bout des orteils au sommet de mon crâne, tel un costume ancien, se perdra. C'était le corps que j'habitais, le corps que mon souffle animait. Ossature, muscles, liquide, miracle, ça tenait ensemble, ça fonctionnait, c'était au point. Pourtant, tout s'use, tout nous fait défaut. Petit à petit, le temps nous détache de nos plaisirs, de nos chagrins, de nos travaux. Notre corps n'est plus le même à la tâche. Cela se fait doucement, petit à petit. Ce qui allait de soi devient une aventure. Après, c'est la raideur et tout est ralenti. Votre corps n'est plus un bienfait de la nature, mais la cause de vos douleurs, de vos soucis. Jour après jour, il vous assaille sans merci. Rien ne va plus de ce qui marchait à merveille. Les dents ou les genoux, les yeux ou les oreilles, ce qui faisait votre fierté ou votre adresse devient sujet de gêne. Il vous faut recourir à d'autres, étaler sans fard votre faiblesse, sans honte vous laisser torcher, laver, nourrir. Vous êtes ce vieil édenté privé de charme que de trop maternelles jeunes voix désarment. Un texte de Liliane Wouters, 1930-2016. Et c'est un texte qu'elle a écrit vraiment vers la fin de sa vie, puisqu'il est paru en 2014 dans un recueil intitulé « Dernier feu sur terre ». L'adieu. Tu peux bien prendre la mer par les cheveux et la secouer comme un vieux tapis, endormir toute une forêt en la regardant droit dans les yeux, attacher le vent au bout d'une ficelle et le mener à la baguette. C'est facile. À peine un jeu d'enfant dans la chambre des mots et l'univers dans ta poche n'est plus qu'une bille de verre. Mais effacer une lettre, une seule, du cri qu'elle a poussé quand, brûlant ses derniers vaisseaux, tu as laissé retomber sur le seuil sa main blanche. Ça, non. Un texte de Guy Goffet, qui est né en 1947, et le recueil s'appelle « L'adieu aux lisières », paru en 2007. Hôpital, purgatoire, obsession sur le même thème. Hôpital, lupanard, purgatoire, enfer, bagne. Là, en bas, au quatrième sous-sol de la tour 2, de l'immense clinique plus peuplée qu'une gare, un jour destiné aux adieux. Là, en bas, où se calme les va-et-vient, où les pas se font prudents, timides, intimidés. Là où tout est propre et approprié, où les mains se lavent et se relavent, où les visages volontiers doivent se couvrir de masques blancs, de masques verts d'eau qui soulignent les regards, là où teintent des machines bavardes et lumineuses, incompréhensibles et comminatoires, où parfois crient les machines, stridentes, martiales, martiennes, là, dans l'antichambre sans sommeil, la parachambre, la pré-morgue, sur l'antilit, dans le pré-cercueil, était-ce encore bien lui ? Les mains entravées comme deux bagnards, deux aliénés, cet homme sans âge et sans larmes, ce corps extraordinairement maigre et beaucoup trop lisse, dévoré par la souffrance physique dévorant la souffrance morale, l'esprit dévoré par le corps et les sédatifs, le présent dévorant le passé, dévorant l'avenir, et la souffrance dévorant le présent du corps, dévorant l'esprit du passé, comme un nœud borroméen dans une bande de Moebius, l'implacable serpent d'Esculape qui se mord la queue. Pareil à ces tuyaux agglutinés qui violaient sa bouche et traversaient sa gorge, vénéneuse et salutaire, ver solitaire avalant sa solitude exacerbée dans le brouillard solide et mou, comme le silence de ses yeux recouverts de gélatine. Était-ce encore bien lui ?
Thank you.
Les deux derniers morceaux que vous avez entendus sont toujours des compositions de Thelonious Monk et sont joués toutes deux par le Kronos Quartet. La première avait pour titre Mysterioso. Quant à la seconde que vous venez d'entendre, c'était Crepuscule with Nelly. Pour cette avant-dernière série, je vous propose trois textes qu'on pourrait qualifier de burlesques ou fantaisistes, un peu dans la ligne d'Henri Michaud, qui était belge, lui aussi. Zone à risque. J'ouvre un œil, puis les deux. Il fait clair, à peine brumeux. Par endroits, même le ciel est bleu. J'ai la lumière dans les yeux. Tout est normal. J'ouvre et je ferme les yeux. Tout est normal. Je me lève. Le sol est là, dessous mes pieds. Je fais un pas. Il fait de même. Marche avec moi. En haut, le ciel. Le sol en bas, tout est normal. J'ouvre et je ferme les yeux, tout est normal. Je sors, jusqu'ici tout va bien. Le pavé tout le long me soutient. J'avance encore, trouve un chemin. Ça peut aller. L'espace tient, tout est normal. J'ouvre et je ferme les yeux, tout est normal. Texte de Daniel de Brucker, 69 ans. Le recueil est paru en 2005 et s'appelle « Coupé ici ». Contre le vide. S'il n'y a pas un assassin dans le poème, un voleur de guitare, un juge bourrelé de conscience, s'il n'y a pas un homme consterné par les mille façons dont il a piétiné l'innocence, s'il n'y a pas dans le poème le fossoyeur de sa propre fosse d'orchestre, alors il n'y a rien. Dans le monde du rejet, parvenu à mon âge, un homme a expulsé une purulente colline de matière fécale, expiré d'indénombrables trombes d'air vicié, évacué des fleuves de miction, rendu des affluents de sécrétions, éternué des averses de postillons et hâle sur des semelles de crêpes un corps qui a pris un rien de volume, sans consentir encore à rétrécir. C'est tiré de Un tailleur d'allumettes, paru en 2009, et c'est écrit par Denis-Louis Collot, 1959-2020. La femme avait mis son compagnon au pré. Il y pâturait en compagnie d'ombelles, de colchiques mélancoliques et d'un vent qui gonflait d'enthousiasme les cerfs-volants. Une ou deux vaches ruminaient indolemment sous le hêtre voisin, tout était bien. L'homme avait fermé les paupières et dorait à vue d'œil. Par la fenêtre de la cuisine, la femme affairée surveillait la cuisson. Dans une heure, il serait à point, elle dégusterait un mets croustillant, à peine relevé d'un fumet d'huile solaire. C'est Colette Nismazur qui a écrit ce petit bijou. Elle a 83 ans et c'est issu de « Feu dans la nuit », paru en 2003. C'était encore un Crepuscule with Nelly, mais cette fois-ci, c'était la version de Monk et Coltrane. Alors, pour terminer cette émission, je vous propose un assez joli texte d'un monsieur qui s'appelle Roger Foulon, 1923-2008, et qui reflète un peu le questionnement, non pas forcément le questionnement, mais enfin le sens qu'un poète peut donner à son écriture. Et ça s'appelle « Paysan ». Je ne suis pas un homme à qui la ville apporte chaque jour son content de plaisir et d'ivresse, de baisements, de palabres et de tumultes. Je suis un paysan qui travaille sa terre, même pas un arpent au fond de sa province, un arpent fait de mots, de phrases, de poèmes, où j'enfonce mon fer à chaque heure du jour, où parfois je récolte un ensemble de fruits qui embaument bien mieux qu'un jardin plein de fleurs. Mes arbres ont du ciel au cœur de leur feuillage, et dès que le vent court et caresse leurs cimes, ils dressent sur mon sol des églises chanteuses. J'y vais souvent prier le Dieu des choses belles, celui qui prend ma main et la conduit sans cesse vers la simplicité des froments et des herbes. Je suis un paysan qui trace ses sillons, pour y semer sa vie et vaincre les ténèbres, pour récolter à chaque instant, malgré son âge, la joie qui tremble encore au moindre de ses gestes. Regardez-moi, touchez mes mains pleines de cale d'avoir œuvré depuis 80 ans sans trêve, puis acceptez d'être le messager de paix, comme l'oiseau rentrant à l'arche après son vol, pour dire à tous, graciés, que le monde est merveille. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission, que vous pourrez, comme chaque mois, bien sûr, réécouter, soit ce dimanche à 13h, soit quand il vous plaira, sur le site de Radio B. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au jeudi 16 novembre. À bientôt. Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.